Un mot ce matin sur ce temps de la Passion. Certes, tout le temps du carême est un temps qui est propice pour méditer sur les souffrances que notre Seigneur a endurées pour notre salut éternel, mais particulièrement ce temps de la Passion. Nous avons d'ailleurs commencé cette méditation, cette contemplation par le chemin de croix le vendredi. Certes, nous n'allons pas refaire tout le chemin de croix, mais nous arrêter sur quelques tableaux, quelques scènes de ce drame que notre Seigneur enduré pour glorifier son Père, pour rétablir toute justice entre les hommes pécheurs et Dieu, pour nous prouver aussi l'étendue de son amour et de sa miséricorde. Voyons déjà notre Seigneur au jardin des Oliviers. Il est venu avec plusieurs de ses apôtres. Et encore, parmi ses apôtres, il en a choisi quelques-uns pour venir avec lui. Mais au jardin des Oliviers, notre Seigneur sera véritablement seul pour affronter une souffrance qu'il nous est bien difficile de comprendre. C'est une souffrance morale qui va avoir des répercussions sur tout son être, tout son corps, puisque vous savez que l'issue va être cette sueur de sang, un phénomène rarissime et qui conduit inéluctablement à la mort de la personne. Notre Seigneur ne mourra pas suite à cette sueur de sang, parce qu'il est l'auteur de la vie, et sa mort arrivera encore un peu après, après d'autres souffrances terribles. Ce que notre Seigneur va recevoir au jardin des Oliviers, ce n'est pas une charge pondérale, écrasante, on va dire des milliards de tonnes qui tombent sur un être humain, évidemment, pauvre homme, il est écrasé comme une crêpe. Il ne s'agit pas d'une masse pondérale. Il s'agit de tous les péchés commis par les hommes depuis l'origine de l'humanité, donc depuis Adam, depuis le péché originel, jusqu'à la fin du monde. Alors évidemment, il est impossible pour nous de quantifier des dizaines, des centaines, de milliards de péchés mortels, avec en plus un nombre incalculable de péchés véniels. Tout cela s'abat en un instant sur les épaules de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une charge morale. Jésus prend sur lui toutes ses fautes pour pouvoir les expier à notre place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces apôtres, Saint-Pierre entre autres, et même Saint-Jean, sont un petit peu plus loin. Ils sont pourtant venus avec lui, mais ils étaient fatigués. Ils s'étaient endormis. Notre Seigneur est seul avec son Père, à porter le poids des péchés de l'humanité. Humainement, c'est insoutenable. Heureusement que la divinité soutient notre Seigneur. Voyons notre Seigneur un petit peu plus tard, qui va être conduit par la troupe, l'un de ses apôtres, et dans la troupe, Judas, celui qui va trahir. Ce n'est pas une belle image que celle de cet homme, et pourtant, qui parmi nous pourrait dire qu'il n'a jamais trahi les engagements de son baptême, qu'il n'a jamais préféré la créature au Créateur. Jésus est conduit devant Caïphe, le grand prêtre. On pourrait s'attendre à un interrogatoire juste, bienveillant, étant donné que l'activité de Jésus n'a jamais été subversive. D'ailleurs, lui-même a dit à ses détracteurs, « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Si une personne n'est pas divine, comment peut-elle avancer un tel propos? Tout homme est pécheur. Eh bien non, Caïphe, tout en endossant une grande responsabilité religieuse, spirituelle, n'est pas éclairé de Dieu. Il a au fond de son cœur la haine de Jésus. Il n'est pas là pour rendre la vérité, pour chercher la vérité. Il a sa vérité et il veut la condamnation et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur va subir cet interrogatoire, ces accusations. Il y a là des faux accusateurs, parce que, évidemment, notre Seigneur n'ayant fait que du bien, personne parmi ceux qui ont été gratifiés de miracles ne pourrait venir accuser notre Seigneur. Donc on a payé, tout simplement, des individus pour accuser notre Seigneur, déformant ses propos. Soit parce qu'on les a mal compris, soit parce que on est malicieux. Par exemple, l'histoire de la destruction du temple. Il ne s'agissait pas immédiatement du temple de Jérusalem. Il s'agissait de notre Seigneur. Personne n'est là pour défendre notre Seigneur. Aucun des apôtres. Aucun de ceux qui ont été guéris par notre Seigneur. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Lazare lui-même, qui a été ressuscité d'entre les morts. Non, personne n'est là. Nous autres, lorsque il nous arrive quelque chose de malencontreux, de profondément désagréable, si ça nous arrive, d'être confronté à la justice, évidemment la première chose, c'est de se trouver un bon avocat. Mais au fond, nous savons bien au fond de notre cœur que si nous ne sommes pas coupables de tels faits dont on nous accuse, c'est possible, nous sommes bien coupables sur quantité, quantité d'autres points. Tandis que notre Seigneur est innocent, totalement innocent sur toute la ligne. Tout n'est que calomnie. Et notre Seigneur ne va pas s'énerver. Il va faire juste, gentiment, une simple remarque qui lui vaudra un violent soufflet, gifle, de la part du valet du grand prêtre. Ce que notre Seigneur a enduré pendant cette accusation infâme, ce jugement ignoble, c'est pour que notre jugement, parce que un jour, chacun d'entre nous aura aussi son jugement. Seulement, il y aura une grande différence. Le juge ne sera pas un pourri comme Caïphe et ceux qui l'entourent. Le juge sera notre Dieu. Il sera impartial. Tout lui sera connu, car Dieu connaît tout de notre vie. Et si nous avons fait des œuvres de miséricorde sur cette terre, si nous sommes efforcés de faire du bien, peut-être aurons-nous des avocats quand même pour plaider notre cause, en particulier la Sainte Vierge. Si durant notre pèlerinage sur la terre, nous avons été dévots de Marie, elle intercédera pour nous. Notre Seigneur va passer ensuite devant un autre juge, un autre chef. Car au fond, Caïphe, c'est le grand prêtre sur le plan religieux. Et sur le plan politique, il n'a plus les commandes. Ce sont les Romains. Et il y a un gouverneur, c'est Pilate. Pilate est différent, bien différent de Caïphe. Caïphe est une pourriture. Caïphe est méchant, profondément méchant. Il a la haine de notre Seigneur et cette haine l'a totalement aveuglé. Pilate, c'est un païen, c'est un romain, avec tous les désordres que cela comporte. Mais Pilate n'a pas la malice, la perversité de Caïphe et de certains des pharisiens. Cependant, Pilate, c'est étonnant pour un militaire, Pilate n'est pas très courageux. Et il n'a pas été aveuglé. Certains péchés aveuglent davantage que d'autres. En plus, la tradition nous dit que sa femme était chrétienne. Donc c'était pour lui une source particulière de grâce, tout païen qu'il était, et de lumière. Et vis-à-vis de notre Seigneur, on ne peut pas dire qu'il va être méchant. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il va essayer de le soustraire de la griffe des Juifs. Mais voyant le tumulte, voyant les menaces des Juifs, il décide finalement de s'en laver les mains. Lui qui a le pouvoir, lui qui a l'armée à ses ordres. Alors certes, s'il prenait la décision de défendre la vérité et l'auteur de la vérité, notre Seigneur, y aurait peut-être du grabuge à Jérusalem. Peut-être même perdrait-il sa place. Mais qu'est-ce qu'une place en face de la vérité à défendre? Conscient que Jésus n'est pas coupable, il va quand même, pour faire plaisir à ses méchants, faire flageller notre Seigneur. Arrêtons-nous un instant à cette scène horrible, atroce. On va arracher une partie des vêtements de notre Seigneur, lui laisser le dos et la poitrine dégarnie. Et là, un groupe de soldats très musclés, armés chacun d'un fouet qui n'est pas un petit martinet qu'on utilise pour les garnements ou les chats ou les chiens qui font des bêtises. Non, non. Le fouet des Romains, c'était tout autre chose. À chaque fois qu'un coup était porté, le sang giclait, la chair s'ouvrait profondément. D'autant que dans le bout de ces lanières, on avait incrusté soit du plomb, soit quelque autre matériau pour que ça pénètre profondément dans le corps et que ça en arrache les chairs au moment où le bourreau, le soldat, retirait le fouet. Pas une fois, notre Seigneur a ouvert la bouche pour se plaindre. Et pourtant, chacun de ses coups le faisait trembler de douleur. Notre Seigneur a enduré cette horrible flagellation qui a laissé son corps, si je peux dire, en lambeaux. Il n'y avait pas un centimètre carré de son dos, de sa poitrine, de ses jambes qui n'avait pas été ouvert par des raies, par des saillies comme ça, provoquées par les coups de fouet. Toutes ces blessures de notre Seigneur, il les a offertes à son Père pour expier ce qui conduit une majorité d'hommes et de femmes, d'adolescents, et même quelquefois d'enfants, en enfer, à savoir les péchés de sensualité, les péchés d'impureté. Souvenons-nous quand le démon, avec son arrogance habituelle, sa malice, vient nous tenter d'une manière ou d'une autre pour nous entraîner vers ce péché. Qu'en même temps, il tient caché ses fouets qui vont rajouter encore et encore des coups à notre Seigneur Jésus-Christ. Un instant de plaisir qui apporteront ensuite le dégoût, provoquent chez notre Seigneur les plus vives souffrances. Et puis, on va ridiculiser notre Seigneur. Certes, ça ne faisait pas partie de ce que Pilate avait commandé aux soldats, il avait commandé la flagellation, mais enfin, la malice de certains soldats, inspirés par le démon, va faire qu'on va lui tresser une couronne, puisqu'il a dit qu'il était roi. Ce ne sera pas une couronne avec de l'osier bien tressé, c'est comme on fait les paniers. Ce ne sera pas une couronne avec des pierres précieuses, de l'or. Notre Seigneur en serait tout à fait digne. Les rois de la terre ont des couronnes en or, et lui c'est le roi des rois. Non, ce sera une autre sorte de couronne. Des épines que nous ne connaissons pas par chez nous, parce que nous connaissons les ronces, là, les épines. Dans ces pays chauds, les épines sont beaucoup plus longues. Et ils ont dû avoir bien de la peine pour tresser cette couronne. Cette couronne. Une espèce de bourrée d'épines, n'est-ce pas? Qui lui ont enfoncé avec un bâton pour ne pas se piquer sur la tête. Et ces épines qui faisaient plusieurs centimètres de long se sont enfoncées dans son crâne, son chef sacré. La sagesse incréée. Ridiculisé, humilié par des idiots, des pucerons, des riens. Et là encore, notre Seigneur subit cet affront sans rien dire. Cette fois, c'est pour expier notre catégorie de péché, qui envoie également les wagons, c'est par wagons entiers que ça déboule en enfer, l'orgueil. Alors que nous ne sommes rien, nous voulons paraître. Notre Seigneur, qui est Dieu, qui est l'Éternel, le Tout-Puissant, s'efface, se laisse accuser, se laisse ridiculiser, se laisse martyriser à notre place. Et puis, un des soldats, inspiré par le démon, évidemment. Imagine quelque chose. Évidemment, le visage de notre Seigneur n'est pas beau à voir. Tellement le sang, déjà la sueur de sang, Jardin de Gethsémani, la flagellation, les larmes, et quand une personne a beaucoup pleuré, surtout les femmes qui prennent du maquillage, c'est pas beau à voir. Bon, notre Seigneur n'avait pas de maquillage, mais enfin, tout ça mêlé, la poussière, le sang, les larmes, et il va y avoir encore autre chose. Un soldat imagine de cracher sur notre Seigneur. Oh, quelle trouvaille! Les autres font de même. Et toute la troupe qui est là va passer à cracher sur notre Seigneur. Certains encore plus malicieux essaieront de viser sa bouche. Notre Seigneur a de la peine à respirer, tellement il a souffert. Et il reprend péniblement sa respiration en ouvrant la bouche. Et là, on essaye de lui cracher en plein sur la bouche. Enfin, son visage est une horreur. Celui qui, quelques jours auparavant, était le plus beau des enfants des hommes, le fils de Marie, est dans un état lamentable. Certains d'entre nous pourraient se dire, mais sont-ils méchants? Sont-ils mauvais, ces Juifs? Ça ne leur suffit pas de le condamner à mort. Il faut encore qu'ils raffinent leur cruauté à un tel point. Avait-il besoin de cracher comme ça sur notre Seigneur? Nous-mêmes, ce n'est pas une fois, par erreur, de temps en temps. C'est continuellement, que nous crachons au visage de notre Seigneur. Par les multiples péchés véniels, délibérés, ou plus ou moins délibérés, que nous faisons. Au certes, ce n'est pas un coup de sabre qui va tuer Jésus. C'est simplement un crachat. Un rien. Soyez-vous prêts à recevoir ce crachat, ce rien, en plein visage. On se justifie très vite, n'est-ce pas, en disant que ce n'est que véniel, ça n'apporte pas la mort à l'âme, certes. Mais avant de regarder, se regarder soi-même, regardons quand même les conséquences sur notre Seigneur. Et puis, voyons encore une autre scène qui est particulièrement touchante. Et je m'arrêterai là. La rencontre de notre Seigneur avec sa Sainte Mère. Il y a eu la rencontre avec Véronique, tout à fait édifiante pour cette sainte femme. Mais quand la Vierge Marie a vu son enfant, celui qu'elle a élevé, qu'elle a chéri, dans un tel état, ne pouvant absolument rien faire pour le soulager. Quelle souffrance pour ce cœur maternel. Et notre Seigneur, tout plein de délicatesse, et par sa science divine, connaît précisément aussi l'étendue d'amertume, de douleur qu'il y a dans le cœur de sa mère. Et cela rajoute encore à sa souffrance. Car quand on aime quelqu'un et que l'on voit sa souffrance, on partage d'une certaine manière. Mais la différence de Jésus, c'est que lui, il connaît parfaitement le cœur de sa mère. Pensons que lorsque nous succombons, nous sommes prêts à succomber plutôt à une tentation du démon, quelle qu'elle soit, non seulement nous infligeons à notre Seigneur des tourments supplémentaires, mais aussi nous broyons le cœur de sa Sainte Mère. Alors efforçons-nous, pendant ces jours saints, deux semaines, la semaine, premier dimanche de la Passion, première semaine, ensuite c'est la semaine sainte, qui sera aujourd'hui, cette année, en raison de cette épidémie très compliquée, réduite, je dirais, sur le plan liturgique. Essayons de ne pas réduire notre vie spirituelle, de profiter de ces événements pour nous rapprocher du bon Dieu, de l'essentiel, sans nous révolter, sans râler. Et nous aurons un plus grand mérite aux yeux de Dieu de garder notre foi, notre fidélité, alors même que nous serons privés des consolations des cérémonies de la Semaine Sainte. À travers cette épreuve, Dieu reconnaîtra ses vrais serviteurs. Ceux qui ne recherchent pas les consolations, mais ceux qui recherchent le Dieu des consolations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.